José qui vient après chaque soir et puis qui me fait un peu son retour. On revient ensemble à bicyclette le long du chemin. Il m'attend et puis il me fait un retour de match. Là. Il me raconte et il va me dire « Ah, ce soir, Patrick, il dit, t'étais moins en forme. On dirait que t'étais plus distrait. » Et je suis tout à fait d'accord avec lui, tu sais. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte. Ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de compte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Le conte duquel je vais vous parler maintenant s'appelle « Le petit poisson doré ». Et ça, en fait, « Le petit poisson doré », c'est un conte trad, c'est un vieux conte de répertoire qui est compté dans plein d'endroits dans le monde. Et puis moi, j'ai choisi d'en faire quelque chose de long dans lequel il y aurait plein de petits contes. Et en fait, ce conte-là se passe... Dans un des contes qui sont comptés dans ce conte-là. On passe par un conte russe, qui est le conte de Miron l'Ermite. C'est un conte qui a une origine russe et... Et ça, dans le dernier 2 ans, j'ai commis un grand malaise avec un petit malaise. Ça, c'est un petit malaise par rapport à ce bout-là parce que on parle d'un conte où est-ce qu'il y a un grand seigneur de guerre et je mentionne que c'est un conte russe. Et je réalisais qu'en fait, le fait de souligner ça, de mettre de l'avant un grand seigneur de guerre dans un conte russe, eh bien, tout d'un coup, j'ai l'air de pointer l'actualité, alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Ce petit conte-là était déjà dans ce conte-là avant qu'on ait la guerre en Ukraine et j'avais pas envie de faire de politique dans ce conte-là. Il y a des fois où j'ai envie de faire de la politique, mais je trouve toujours que ça affaiblit en fait le récit quand il y a de l'air d'être trop dirigé, quand ça devient un peu un pamphlet. Si je te fais un conte qui a clairement des valeurs environnementales et que c'est un conte écologiste, eh bien, tout d'un coup, je trouve que le récit prend un peu le bord et qu'on vient juste avoir une discussion un peu en vase clos, entre convaincus. Il y a plein de gens qui vont hocher de la tête en étant contents qu'on parle d'écologie et il y a plein d'autres mondes qui vont faire « fuck, encore une histoire qui parle d'écologie, quoi ». Moi, j'ai envie de te faire de quoi des... J'ai envie que le récit, c'est bon et de mettre le moins de choses possible dans le chemin. Aussi contradictoire que ça peut avoir l'air, des fois, justement, là, des fois, je pense que de sembler avoir trop d'opinions politiques dans un conte, je pense, vient nuire à l'universalité du conte. Alors, ça m'a fait ça dans ce conte-là. J'ai pas rien changé, sinon que je pense que je le spécifie que, sincèrement, ça fait pas référence à l'actualité, puis c'était là avant, dans ce conte-là. Donc, ouais, ça, c'est une chose. Un conte qui est genre un mash-up, c'est un ramassis de plein de personnages qui viennent de différentes cultures. C'est quelque chose que j'avais envie de mettre dans ce conte-là. Il y avait nécessairement un bout où il y avait une espèce d'attaque d'un personnage mythologique. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi il n'y aurait pas plein de personnages mythologiques qu'on connaît, mais qui, en fait, viennent de plein d'autres cultures? J'avais envie de mettre de l'avant le fait que notre culture est issue de plein de cultures. Si tu as une sorcière qui s'en vient dans cette histoire-là, eh bien, sache que ta sorcière, que l'image qu'on a collectivement dans la francophonie, l'image qu'on a des sorcières correspond parfaitement à l'image de Baba Yaga, qui est genre la mère de toutes les sorcières. Puis ça, ben c'est un conte russe. Fait que t'auras beau dire que c'est important de protéger la culture québécoise, mais sache que ta culture est faite de la rencontre des autres cultures. C'est un chemin... notre culture, c'est une photo actuelle de notre périple, mais il n'est pas fini, ce périple-là, et puis il est passé, c'est nourri de plein d'autres cultures. Si je te dis qu'il y a un petit lutin, ben sache qu'il y a des bonnes chances que ton petit lutin soit issu de la culture irlandaise. Et puis même, peut-être pas, en fait, il y a plein de cultures qui ont des petits personnages un peu sauvages qui viennent de la forêt, qui viennent du désert, on en a ici, les Micmacs avaient des espèces de petits êtres qui étaient chaotiques neutres pour ceux qui jouent à Donjons Dragons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loyaux à qui que ce soit et qui seront peut-être bons, mais peut-être méchants, dépendamment sur quel bord tu les prends. Ça, à peu près toutes les cultures ont ces petits êtres-là. Et on se retrouve là-dedans. C'est peut-être un espèce de grand commun qui est nos types de personnages. C'est un peu ce que j'avais choisi de faire dans ce conte-là, en multipliant un peu une péripétie qui était un ennemi. J'ai choisi que ce serait un groupe d'ennemis. Alors, je trahissais pas trop le conte initial. Et donc, j'ai pris plein d'autres personnages. Mais un des défis auxquels je faisais face en faisant ça, c'est que si tu empruntes un mythe à une autre culture, eh bien, il nous manque toutes les clés de compréhension. Si je te parle, par exemple, des petits lutins irlandais, le, je sais pas comment on le dit, je sais comment moi je le dis, mais je sais pas comment il se dit bien, mais le leprechaun, le leprechaun, ou le quelque chose de même, là, le petit lutin irlandais. Tout d'un coup, je me demande si c'est irlandais, mais je pense que oui. Alors, lui, si tu racontes quelque chose qui a trait avec ce lutin-là, tu vois, je leur dis pas. Il y a des limites à s'humilier proprement. Alors, si tu racontes cette histoire-là en Irlande, ben nécessairement, eux, ils savent tous les règlements qui régissent ce personnage-là. Ils savent qu'il se tient d'un grange. Ils savent déjà très bien que ça se peut qu'il fasse des tresses à ton cheval. Mais si je te raconte ça au Québec, c'est pas clair. Alors, si je te le raconte au Québec, il va falloir que je mette la table avant d'articuler le personnage. Paf, il y a un lutin qui apparaît, mais il faut d'abord que je vous dise que ces lutins-là ont cette manière-là de se comporter. Et si jamais, je sais pas, il y a un enfant qui apparaît dans la famille, le couple qui avait un lutin dans la grange a un bébé, eh bien, le lutin est jaloux. Ça va le faire garanti et il va se mettre probablement à vouloir du mal à votre enfant. Il va falloir que je mette la table et ça vient faire beaucoup perdre de rythme à ton compte. Nécessairement, il va falloir faire une espèce de capsule pédagogique ou habilement amener la chose. Mais c'est un des coûts. C'est un peu le prix à payer si tu amènes quelque chose qui vient d'une autre culture. Tu perds tout ce qui était normalement inhérent au conte. Tu sais, si je te dis que dans ce conte-là, paf, il y a Batman qui arrive, OK, on est d'accord que ça fait pas de sens. Mais si je te dis Batman, il y a des chances que j'ai pas trop à t'expliquer que Batman, dans la vie, c'est aussi un homme riche qui a perdu ses parents quand il était jeune et qui combat le mal, mais qu'en même temps, il a souvent à justifier sa présence et puis souvent, il a à se battre contre l'autorité qui ne reconnaît pas sa bienveillance. Tout ça, c'est un peu un package deal qui est contenu dans Batman. On vient de poser un théâtre complet. Mais si je te dis les prochaines, je l'ai mal dit. Je dis les prochaines parce que j'ai entendu un Français essayer de le dire et j'ai bien ri. Puis ça m'a marqué à jamais. Je ne suis pas tellement mieux. Donc, si je dis le nom de ce lutin-là, le package, il vient pas nécessairement avec. Donc, ça va impliquer que je vais devoir le présenter au complet. Exemple, dans Le Petit Poisson Doré, je présente Baba Yaga, qui est l'espèce de mère de toutes les sorcières. Mais la OG, la vraie Baba Yaga, elle vole dans un grand mortier et puis elle drive ça avec un pilon. Un mortier pour écraser ton poivre, là. Le bâton que tu tiens pour écraser ton poivre, mais c'est avec ça qu'elle, c'est sa barre. C'est avec ça qu'elle a fait tourner le safran sur son petite embarcation. Faut que tu te poses des questions. Comment qu'elle conduit cette affaire-là? En quoi le fait de mettre dans les airs un bâton en roche, ça fait que tu te diriges? Faut un peu que tu te poses toutes ces questions-là, tu sais. Et moi, si j'utilise Baba Yaga, tu vois, je me demandais si je mettais pas un chaudron à la place du mortier. Parce que on dirait que c'est plus clair, ça fait plus appel à quelque chose qui est un peu dans le lexique imaginaire qui entoure nos personnages de sorcières. Est-ce que ça enlève quelque chose à l'authenticité du conte? Est-ce que ça sert-il le conte? Moi, en fait, ma seule référence, mon seul outil pour naviguer dans tout ça, c'est mon feeling. Est-ce qu'en 10 ans, qu'elle rentre dans un chaudron? En tout cas, vous voyez peut-être où je m'en vais avec ça. Est-ce qu'en le disant, je me sens mal, je me sens pas clair, je sens que je suis en train de trahir l'histoire et ce sentiment-là va m'aider à me diriger dans le conte. Si ça se trouve, la prochaine fois que je vais dire ce conte-là, en virant le croche puis en m'apprêtant à dire qu'elle se promène dans son chaudron, je vais me rappeler du malaise que j'avais eu la dernière fois et je vais donner un coup de roue. Rapidement, je vais faire comme « Oh non, c'est vrai, dis pas un chaudron, redis un mortier. » Puis je vais dire un mortier, puis ça va sortir tout croche, mais c'était peut-être un peu moins tout croche que la fois d'avant. Mais c'est vraiment au feeling que je fais ce genre de choix-là, mais pas mal « on the spot », c'est-à-dire sur le coup. Et puis, le Petit Poisson Doré, c'est un conte, c'est un conte que j'avais apporté à mon répertoire à l'été 2018, mais ça donnait qu'en même temps, j'avais une rencontre avec un mentor. J'avais réussi à avoir de l'aide pour avoir un mentor. J'avais le comédien David Bouchard, qui est un gars avec qui j'ai fait de l'impro quand j'étais au cégep. Donc, on parle beaucoup le même langage. Il connaît mes outils de travail. C'était hyper pertinent, mais lui, il vient du milieu du théâtre maintenant. Donc, il m'accompagnait dans une démarche d'une semaine où est-ce qu'il allait m'aider à mieux porter le conte. Et en fait, on en a eu pour une semaine pratiquement à débattre sur est-ce que je devais écrire mes contes ou pas. Parce que c'est ce qu'il m'a demandé, de lui fournir une version écrite. Sinon, on pouvait difficilement travailler ensemble. Parce qu'il ne pouvait pas référer à un bout du texte en le pointant avec son doigt. Il ne pouvait pas travailler en amont. Et puis, Donc, j'ai été prêt à jouer le jeu et à coucher un compte sur papier. Et moi, je suis pas un gars qui écrit particulièrement bien, tu sais. Donc, j'avais l'impression de poser un geste qui était maladroit, d'y donner ça. Et en fait, ça a été hyper riche comme rencontre parce que, ben, effectivement, au bout d'une semaine, j'ai réalisé, j'y concédais parfaitement que si je voulais compter mieux, je devais avoir recours à l'écrit. Mais dans le fond, j'ai pas envie de compter mieux. Moi, j'ai juste envie de compter de la manière la plus authentique possible, de la manière de la plus sincère. J'ai envie de jouer au jeu, d'essayer de compter. Il y a un livre sur lequel je suis tombé, c'est Eric Emmanuel Schmidt, ça s'appelle Madame Pilinska et le secret de Chopin. Bref, Pilinska, je ne sais pas si je le dis bien. Bref, c'est une dame qui donne des cours de piano et puis à un moment donné, elle compare deux grands compositeurs ou compositrices, je ne sais pas, Liszt. Je le dis probablement mal. Et puis, elle explique que Liszt, c'est un dieu qui est descendu sur Terre pour montrer sa toute-puissance, alors que Chopin, c'est un ange déchu qui tente de regagner le ciel. Et ça me parlait tellement, moi. Moi, j'ai vraiment l'impression d'essayer de regagner le ciel. Tu sais, j'ai vraiment des... C'est la notion de tentative, c'est la notion de « c'est pas garanti ». On l'essaye, on prend une chance, peut-être bien que ça va décoller, je serai pas habile, mais pour vrai, m'a essayé de jouer avec vous. T'sais. J'ai plusieurs spectateurs, spectatrices qui... Ben, plusieurs. Ben, oui, il y a plusieurs spectateurs, spectatrices. Bon début de phrase. Maintenant, deuxième phrase, dont quelques-uns qui sont vraiment des habitués, qui vont revenir non seulement chaque été, mais il y en a qui reviennent chaque soir, pratiquement un soir sur deux, ils sont là parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Carleton, je sais pas. Mais on se met à avoir une espèce de relation privilégiée où est-ce que souvent, ce monde-là, ils deviennent assez à l'aise à un moment donné pour avoir une discussion avec moi après le compte. J'ai José qui vient après chaque soir et puis qui me fait un peu son retour. On revient ensemble à bicyclette le long du chemin. Il m'attend et puis il me fait un retour de match. Là. Il me raconte et il va me dire « Ah, ce soir, Patrick, il dit, t'étais moins en forme. On dirait que t'étais plus distrait. » Et je suis tout à fait d'accord avec lui, tu sais, parce que je sais que c'est bienveillant et puis avec lui, je peux avoir cette discussion-là parce qu'il m'a vu 25 fois le raconter, le petit poisson doré. Et lui, il arrive à comparer et à faire comme « Ah oui, c'est vrai que ce soir, t'étais, je sais pas, c'était mou un peu ou au contraire, ce soir, c'était vraiment solide. Wow, ça a été, t'avais une telle complicité ou t'avais un bout qui était vraiment plus précis que d'habitude. » Alors moi, ça me donne une espèce de retour qui est tellement précieux. J'ai José qui me fait assez confiance pour m'offrir cette honnêteté-là. Il sait que je vais bien le prendre. Et tout d'un coup, ça me permet d'ajuster ma performance, si c'en est une, sur un retour d'un spectateur ou d'une spectatrice. Et ça me donne l'impression de poser un geste qui est beaucoup plus collectif que si c'était entre professionnels, qu'après 12 heures de répétition, mon metteur en scène ou ma metteur en scène m'a fait telle recommandation et maintenant c'est de même que je porterai... Non, moi j'ai envie que ça appartienne à tout le monde, que ça soit beaucoup plus populaire en fait, que ça soit issu de la population. Et, sauf que des fois, oui, ça marche. Des fois, oui, on réussit à regagner le ciel. Et puis quand je vais revenir après le spectacle et puis j'ai José qui vient me voir, ben, j'ai envie de sauter dans les airs et on se regarde et puis on fait « Ah, oh, ça a marché ». Comme si c'était un phénomène en fait qui est extérieur à moi-même parce qu'en fait, c'en est un qui est pas... C'est pas moi qui ai le contrôle sur tout ça. Tout ça, quoi? Tout ça, le contexte, ah, ce soir, le coucher de soleil, c'était incroyable, la vibe était bonne, c'était d'une beauté, il y avait un petit air de vent qui était chaud, qui faisait que tout était beaucoup plus décontracté. Il y a plein de phénomènes, on ne contrôle pas ce cadre-là, et c'est ce qui fait que le cadre peut nous offrir du merveilleux comme il peut nous offrir du bien ordinaire des fois, tu sais. Mais si ce soir, ça a décollé, ben tous les deux, moi puis José, on revient en étant tout énervé, en se disant « waouh, on a assisté à ça ». Et c'est sincèrement l'impression que j'ai. Et c'est pas de la fausse humilité. C'est que j'ai l'impression que c'est pas un monologue, le conte, mais un réel dialogue avec les gens qui sont là et puis l'environnement et même une histoire qui... L'histoire fait partie du dialogue. L'histoire devient un autre personnage dans ce dialogue-là, un autre interlocuteur, interlocutrice. Alors, c'est vraiment mon sentiment avec ça. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire sur le petit poisson doré. Merci. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon, et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.